Bonjour à tous. Pour cette année 2024, je vais commencer le message par la nouvelle alliance. C'est vrai que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, nous a apporté la nouvelle alliance et c'est ce que j'aimerais vraiment vous partager ce matin. Comme c'est la nouvelle année, nouvelle alliance, ça pourrait aussi correspondre. Alors, quel prophète préférez-vous parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament? Élisée? Et Ésaïe? Élie? Il y a beaucoup de prophètes. Alors, personnellement, parmi tous ces prophètes, mon préféré est le prophète Jérémie. Quelqu'un a dit Jérémie? Oui, c'est bien. On a des points en commun. Alors, certains pourraient contester en me disant, mais bah, écoute, Moïse, c'est quand même le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit Pentateuque, les cinq premiers livres. Il a été considéré comme le plus grand prophète, même par les pharisiens à l'époque de Jésus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. D'autres pourraient encore citer Élisée, parce que mon mari s'appelle Élisée. Ou parce que j'aime Élie, Samuel, Ésaïe. Enfin, malgré cela, voilà, ma préférence va à Jérémie. Jérémie a longtemps prophétisé, vous savez, sur les malheurs imminents qui attendaient Israël, même si ces avertissements n'étaient pas du tout entendus par le peuple d'Israël. Il a continué à prêcher, il a continué à transmettre le message de Dieu en disant que oui, attention, vous allez connaître la destruction, vous allez connaître le jugement de Dieu. Malgré ces avertissements, le peuple de Dieu n'avait pas écouté. Il a souvent aussi utilisé, j'aime bien Jérémie parce qu'il a souvent utilisé des symboles pour transmettre le message de Dieu. Par exemple, dans Jérémie 13, il prend une ceinture, il la porte autour de sa taille et la cache très loin. Et puis après un certain temps, il la recherche et cette ceinture est devenue inutile, gâchée. Cela symbolise, d'après Jérémie, la corruption du peuple, au niveau spirituel bien sûr. Et puis dans Jérémie 19, il a utilisé aussi une jarre. Il casse une jarre devant les anciens du peuple pour symboliser justement la destruction imminente de Jérusalem par Babylone. Il y a aussi ce message qu'il avait apporté avec un joug de bois. Alors un jour, il porte un joug de bois autour de son cou pour symboliser justement que le peuple d'Israël allait porter ce joug que Dieu allait imposer à son peuple par Babylone. Jérémie a agi dans cette période, je dirais, noire, comme une lumière pour apporter le message de Dieu. Il a exprimé ainsi un profond désir du retour de son peuple vers Dieu. Et dans ce message, dans ce désir, il y avait aussi une certaine espérance de restauration de la part de Jérémie, de la part de Dieu surtout. Et dans cette transmission de messages, il a connu beaucoup de défis, beaucoup de persécutions, mais malgré tout, il a continué. Alors, ce n'est pas pour ça que je l'aime beaucoup. Enfin, si, je l'aime bien. Mais c'est surtout parce que j'aime ses messages prophétiques. Il parlait beaucoup sur la Nouvelle Alliance. Et quand on parle de Nouvelle Alliance, on dit souvent Jérémie 31. Verset 31 jusqu'au 33. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Voilà. Je vais vous demander de lire tous ensemble. On va faire cet exercice. Je pense qu'on ne lit pas tous ensemble dans l'assemblée. Normalement, c'est le prédicateur qui lit tout seul. Mais ce serait bien quand même que chacun prononce aussi les mots pour lire la parole de Dieu. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Alors, on va lire tout lentement. On y va. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Jérémie parle de ce nouveau message, enfin, non, ce n'est pas un nouveau message, parce qu'on voit aussi d'autres messages prophétiques qui parlent de cette nouvelle alliance. Ésaïe parle beaucoup aussi de cette nouvelle alliance, mais Jérémie aussi, surtout, parle beaucoup sur cette nouvelle alliance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une alliance pour vous ? Alliance, quand on dit une alliance, c'est une sorte de contrat qu'on résolue à respecter. Dans le contexte actuel, le terme alliance est utilisé pour décrire un accord entre Dieu et les hommes. Autrement dit, c'est un accord, ou plutôt une relation entre Dieu et nous. L'alliance, c'est une relation entre Dieu et nous. Cette alliance implique aussi un engagement sérieux et aussi une fidélité mutuelle entre les deux parties. Dans notre verset d'aujourd'hui, il est mentionné que Dieu est notre Créateur, notre Roi, notre Père, enfin dans d'autres versets aussi, et que nous sommes son peuple, ses enfants. On peut également observer qu'il y a deux alliances dans ces versets, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Réfléchissez un peu, parce que au verset 32, on parle de l'ancienne alliance. Vous savez que l'ancienne alliance a été donnée à Moïse, à Abraham, à David aussi, à Noé, etc. Et dans cette ancienne alliance, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu les a guidés, comme indiqué dans le verset 32. Il est dit, « Je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. » Autrement dit, Dieu a saisi leurs mains pour les faire sortir d'Égypte de leur esclavage. Leur relation était semblable, même presque comme un couple. Il était présent à leur côté, les protégeant. Mais après la sortie d'Égypte, le peuple a rompu l'alliance. Au lieu de servir, d'obéir à Dieu, parce que c'était un peu l'engagement à respecter, ils ont pris un autre chemin, rompant ainsi l'alliance. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de cette nouvelle alliance qui était bien meilleure que l'ancienne. Dieu a veillé à ce que cette alliance soit gravée dans le cœur des croyants. Contrairement à l'ancienne alliance où l'alliance a été gravée sur les tablettes. Quand cela est arrivé au moment où Jésus, la nouvelle alliance est arrivée, au moment où Jésus est mort sur la croix et ressuscité, et que l'Esprit nous était accordé à tous. Cette nouvelle alliance a permis que la loi soit inscrite à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que Jésus est toujours présent dans votre cœur ? La loi est-elle gravée en vous ? Éprouvez-vous une certaine présence forte de Dieu ou une certaine incertitude ? Ou peut-être vous êtes mitigé, tiède, devenu tiède, etc. Devant cette question, en réfléchissant à notre état spirituel, je vous invite à reconsidérer ce que représente réellement cette nouvelle alliance pour vous, pour nous. Revenons attentivement donc à notre verset d'aujourd'hui qui souligne que la nouvelle alliance est gravé non pas sur des tablettes de pierre, mais dans le lieu le plus intime de notre être, dans notre cœur. Un verset crucial utilisé par l'auteur de l'épître des Hébreux aussi. En fait, est-ce que tu peux passer le slide où on voit les deux versets, Hébreux 8, verset 10, qui en fait répète le verset 32, pas 33. Je vous lis en Hébreux 8, verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Vous voyez la similitude? Il y a une petite différence. C'est quoi la différence? Dans l'esprit. Alors que dans Jérémie, il est dit « au dedans d'eux », et là, il est dans l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, c'est à peu près similaire, au dedans d'eux, dans l'esprit. Oui, Dieu souhaite que nos pensées, dans l'esprit, et nos cœurs lui soient dédiés complètement, remplis complètement. Mais c'est vrai que nous savons que Satan utilise tout son effort pour nous détourner vers les choses sombres. Son objectif ultime est de nous éloigner de Dieu. Nous savons très bien que le diable rôde comme un lion rugissant pour nous faire éloigner de Dieu. Alors que Dieu, ici, dans ce verset, il est dit que Dieu souhaite vraiment que vos pensées et vos cœurs lui soient dédiés à 100%. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Est-ce que vos pensées sont-elles orientées vers Dieu? Ou vos pensées sont-elles captivées par les choses du monde? Il y a quelques mois de cela, j'ai découvert le webtoon. Je ne sais pas si vous connaissez le webtoon. Non? Hein? Il y a certains qui sourient. j'ai découvert ça par mes filles, qui regardaient le webtoon. C'est une sorte de bande dessinée, mais sur Internet. Le webtoon, ça vient de la Corée, en fait. Donc, du coup, comme ça vient de la Corée, je me dis, je vais découvrir aussi. Et je suis tombé dedans, et je me suis dit, mais c'est vraiment captivant. J'aime bien regarder des films, mais c'est comme si on regardait des films assez rapidement. Et c'était assez une bonne surprise. Je me suis dit, c'est un bon hobby, ça pourrait être un bon hobby. Peut-être que vous avez aussi d'autres hobbies, hein, vous aimez regarder le film, vous avez tout à fait le droit de profiter de votre temps libre pour regarder votre film favori, etc. Ou même des séries. Je ne sais pas, si vous avez un Netflix, il y a plein de séries que vous pourriez suivre. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous profitez de toute cette chose comme un hobby ou vous voulez remplir tout cela dans votre tête au lieu de remplir des choses saintes? C'est ça que j'aimerais vous poser. Quand je vois mes filles complètement immergées par leur portable, je me dis, je m'inquiète. Et ce n'est pas seulement mes filles. Quand je vois aussi d'autres personnes, je sais que certains d'entre vous aussi, est assez omnibulé par certaines choses. On peut se dire, moi je ne pêche pas, je ne fais pas de mal, je profite de cette occasion. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que nous avons cette capacité aidez-moi. De faire la part des choses, ouais, pour que ça ne devienne pas une addiction, pour que ça ne remplisse pas notre tête. Parce qu'il est dit que nos pensées, nos cœurs soient dédiés. Et parfois, ce n'est pas seulement le péché, mais des choses futiles. Le Satan utilise des choses futiles pour nous remplir avec des choses et de nous faire éloigner avec Dieu. En fait, ce genre de réalité engage chacun dans une guerre spirituelle. Parce que, voilà, Satan utilise la culture d'aujourd'hui pour nous remplir notre tête, nos pensées. Au lieu que nous remplissions notre tête, nos pensées, avec des choses saintes, avec des choses de Dieu. Oui, cette guerre spirituelle demande de... Enfin, c'est une lutte, hein, pour remplir nos cœurs, nos pensées de choses saintes, pour que le règne de Dieu s'installe dans le cœur et dans la pensée. Dans la pensée. Ça, quand je parle de cette « dans le cœur », ça fait penser aussi à la circoncision. Ça ne vous fait pas penser à la circoncision ? Parce que c'est vrai qu'à l'époque de l'Ancien Testament, la circoncision, c'était... Enfin, c'était la circoncision. Couper un bout de peau pour montrer qu'il y a une alliance entre Dieu et nous. C'était un symbole que l'Israël était mis à part pour le Seigneur. Mais il est aussi crucial de comprendre que la circoncision physique est complétée par une circoncision de cœur. On peut voir ça dans Deutéronome 36, où il est écrit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et il aimera l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Il s'agit de la restauration du peuple de Dieu. Mais en même temps, on peut penser à la Nouvelle Alliance. Et une fois que la Nouvelle Alliance arrive, on n'a plus besoin de la circoncision physique, mais la circoncision de cœur. Et cette circoncision de cœur permet justement d'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, afin que nous puissions vivre. La circoncision du cœur permet aussi que nous recevions le feu de Dieu. Le feu de Dieu. En parlant du feu, il y a quelques semaines, j'étais en Suisse, puisque voilà, pour fêter Noël ensemble avec la belle famille, ma maman étant partie en Corée, je ne pouvais pas fêter avec elle. Donc, on a fêté avec la belle famille. Et puis, comme ils ont déménagé, on ne pouvait pas être logé chez eux. Il y avait pas mal de personnes chez eux aussi. Et donc, on était logé chez le frère de Laetitia pendant les vacances. Et là, il y avait une cheminée. C'est rare que j'allume les cheminées pour faire le feu. Hein. C'est souvent les autres qui faisaient. Même pour les activités de l'église, il y avait des flambeaux, donc je les laissais les flambeaux faire le feu. Et là, c'est moi qui devais le faire. Heureusement, il y avait Sarah, ma fille, qui avait quand même fait les flambeaux et qui savait faire les feux. Donc, elle m'a appris comment faire le feu. Oui, honte à moi. Enfin, bref. Enfin, j'ai appris à faire le feu. Et puis, voilà, c'était vraiment génial. Il fallait d'abord... quelques matos, papier, et puis des bois de chauffage, etc. Donc il y avait quelques étapes. Donc avec le papier, on a fait le feu, et ainsi le bois de chauffage a pris feu. Une fois feu allumé, bien sûr, nous ressentons la chaleur, et même l'intensité de la chaleur, et c'était vraiment très agréable. Cependant, voilà, on avait mis le feu, on regardait un film, et quelques heures plus tard, il ne restait que des braises. Il fallait remettre encore du bois, du chauffage, etc. En fait, il suffisait juste mettre des braises, enfin, il suffisait mettre le bois sur les braises et relancer le feu. Souffler un petit peu. Mais c'est pas moi qui soufflais, hein, il suffisait juste ouvrir pour que ça souffle de l'intérieur. Parfois, en tout cas, la vie spirituelle est un peu similaire. Le feu qui brûle en nous se consume et disparaît aussi, tout comme l'intensité de la chaleur. C'est pourquoi il est important de remettre du bois de chauffage pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, quel est pour vous ce bois de chauffage? Dans Jérémie 20, verset 9, nous voyons Jérémie persécuté par le peuple parce qu'il avait prêché, prophétisé la destruction, la malédiction, la déportation de son peuple. Les gens ne l'avaient pas écouté. Et puis, ils l'ont persécuté. Et donc, il était vraiment découragé par cette situation. Il ne voulait plus annoncer la parole de Dieu, ni assumer son ministère. Cependant, il ne pouvait pas finalement arrêter parce qu'une flamme continuait à brûler, à consumer en lui. On voit ça dans Jérémie 29. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire je ne vais pas parler de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Dans ce cas-là, cependant, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os et je m'efforce de le contenir et je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il essaie d'arrêter, mais il ne peut pas à cause de ce feu qui le dévore. Est-ce que vous avez ce feu en vous ou pas? Avez-vous un feu dévorant ou une petite braise qui a besoin du bois de chauffage? Le souffle que j'avais mis pour que les braises prennent feu encore avec le bois qui était au-dessus, on pourrait peut-être considérer comme un souffle de l'Esprit de Dieu. Je vous invite vraiment cette année à raviver cette flamme, peut-être en communiquant un peu plus avec le Seigneur, pour nourrir le feu qui est en vous, parce que Dieu vous a mis un feu dans vous, à partir du moment où vous avez accepté le Christ. Quel pourrait être ce feu, cette bois que vous pouvez mettre? Peut-être des résolutions que vous avez prises durant cette année 2024. Vous aviez peut-être décidé de lire plus la Bible. Vous savez que nous, depuis l'année dernière, nous faisons la lecture de la parole de Dieu pour pouvoir lire en 3 ans, une fois l'Ancien Testament et 3 fois le Nouveau Testament. Vous savez, tout ça, c'est derrière, à l'entrée de l'Église. Tout ça parce que nous voulons vraiment lire la parole, être enrichis. Ou bien peut-être ce bois que vous voulez mettre sur le feu, c'est peut-être des bonnes actions, plus de temps avec le Seigneur, plus d'intimité avec le Seigneur par la prière aussi. Enfin bref. Voilà. Que nous puissions vraiment nourrir nos pensées, nos cœurs, avec des bonnes choses. Deuxième chose, dans Jérémie 24, le prophète Jérémie voit 2 paniers de figues posés devant le temple de Dieu à Jérusalem. Les figues dans l'un des paniers sont bonnes, tandis que l'autre panier sont mauvaises. Elles sont tellement mauvaises que pour être mangées, on ne pouvait pas manger. Le Seigneur explique à Jérémie que les figues bonnes représentent les habitants de Juda, que Dieu considère comme justes et fidèles, mais qui allaient justement être déportés. Tandis que les figues mauvaises représentent ceux qui considèrent comme méchants et infidèles. Cette vision symbolise le jugement divin sur le peuple de Juda en raison de son comportement. Les bons seront préservés et bénis, tandis que les méchants, les infidèles, subiront des conséquences sévères. Et c'est pour ça que Dieu appelle à la repentance à son peuple. J'aimerais vous lire les 3 versets dans 24, 5, 6, 7. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays de Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Il promet donc ici de les ramener et de ne pas les arracher. 27. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Voilà, donc ça symbolise vraiment la promesse divine de favoriser les captifs de Juda, même lorsqu'ils seront loin de chez eux, même si nous traversons des épreuves. C'est une promesse que Dieu sera avec nous. Bien sûr, en 2024, on ne sera pas épargné de tous les malheurs. Nous voyons déjà dans le monde des catastrophes naturelles. Nous voyons des guerres partout. Nous serons pas. Nous voyons aussi qu'il y a des chrétiens parmi les Palestiniens. Il y a des chrétiens parmi les Juifs, parmi les Ukrainiens, parmi les Russes. Il y a aussi des bruits de guerre en Asie avec la Chine et voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nous allons subir aussi des difficultés, des épreuves dans la vie. Mais ce qui est le plus important, c'est que malgré les difficultés, les épreuves que nous pourrions subir, le Seigneur promet d'être avec nous. Il dit, il est en train de dire, vous allez être captifs, mais je serai avec vous. Vous serez comme des bons fruits et vous allez revenir. C'est une promesse, c'est une belle promesse. Dieu promet de les ramener, de les établir, de ne plus les détruire, de les planter et de ne plus les arracher. Pour cela, Dieu nous demande une seule chose, la repentance, pour être restauré, pour vraiment être apte aux yeux du Seigneur, pour être rempli des bonnes choses, nos pensées, nos cœurs. Qu'est-ce que nous allons remplir en 2024? Nos cœurs et nos pensées. Cela rappelle aussi l'histoire du fils prodigue que vous connaissez bien. Si je rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas très bien l'histoire, le fils prodigue demande à son père sa part d'héritage et il part vivre une vie de débauche dans un pays lointain. Il dilapide, gaspille tout son argent dans des comportements irresponsables. Et puis, après avoir tout perdu, après avoir connu aussi la faim, le fils prodigue prend conscience de ses erreurs et il décide de retourner humblement vers son père en espérant que, voilà, d'être accepté comme un simple serviteur, non pas comme un fils, mais un simple serviteur. Et à ce moment-là, il est accueilli de nouveau par son père, qui est miséricordieux, qui a l'amour inconditionnel pour son fils bien-aimé. Dans cette histoire, il y a aussi le fils aîné. Le fils aîné qui reste fidèle à son père et qui obéit à ses commandements. Il a toujours été avec son père et il a travaillé dur dans la ferme familiale. Lorsque le fils prodigue revient après avoir gaspillé sa fortune et après avoir mené une vie de dissolution, le fils aîné réagit avec mécontentement. Mais c'est papa, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne comprends pas pourquoi tu l'accueilles avec joie. Ce retour, ce vaurien, il ne comprend pas. Et le père, dans cette parabole, est le personnage central qui représente l'amour inconditionnel de Dieu. Il accueille chaleureusement le fils prodigue à son retour, embrassant et célébrant sa repentance. Le père encourage également le fils aîné à rejoindre la célébration, soulignant que son retour était une cause de joie et de célébration. En résumé, la parabole du fils prodigue met en lumière la grâce et la miséricorde de Dieu. illustrant aussi comment même ceux qui se sont éloignés de Dieu peuvent être accueillis avec amour et avec réconciliation. Cette parabole vraiment souligne la nécessité pour ceux qui sont fidèles de ne pas succomber à l'orgueil comme le fils aîné ou au ressentiment, mais aussi plutôt et aussi à se réjouir du retour de son fils. Bien sûr, il y a aussi l'histoire du fils prodigue qui revient auprès de Dieu. Dans notre assemblée, ce matin, peut-être, il y a des fils prodigues. Il y a le fils aîné, qui est aussi là. Ou peut-être le troisième fils parfait. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sachez que Dieu nous accueille. Attend aussi pour que nous puissions façonner selon l'image du Seigneur. Je reviens encore, le titre d'aujourd'hui, c'est la Nouvelle Alliance. C'est cette Nouvelle Alliance qui a permis que nous puissions maintenant être acceptés comme un enfant, comme un peuple de Dieu. Et ce qui est vraiment génial, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de cette vérité? Il est dit dans la parole de Dieu, « Je t'ai gravé sur mes mains. » Nous avons été gravés dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas écrit avec un stylo marqueur... comment? Enfin, marqueur qui n'efface pas très bien. C'est quoi ça? Enfin, bref. Mais ça va quand même effacer un jour, n'est-ce pas? Mais il nous a gravé sur ses mains. Comment on peut graver? Peut-être en faisant le tatouage. Mais si on fait le tatouage, ça fait super mal, n'est-ce pas? Enfin, j'ai jamais fait, mais en tout cas, ça doit faire super mal. Hein? Voilà, il a subi la douleur pour graver nous tous sur ses mains. Et je dirais qu'il a subi une grande souffrance en nous donnant son fils unique pour qu'il soit sacrifié sur la croix pour nous, pour graver nos noms sur ses mains. Et quand c'est gravé sur ses mains, c'est beaucoup plus facile de regarder, n'est-ce pas? Pour le portable, il faut ouvrir, allumer, et puis je viens de recevoir en fait un message. Alors voilà, oui, il faut du temps. Quand c'est gravé sur la main, hop, c'est facile. À tout moment, on peut voir, on peut regarder. À tout moment, le Seigneur nous regarde. Il nous a accordé son esprit. Il nous a accordé cette nouvelle alliance qui est éternelle, qui n'est pas périodique, mais éternelle. Cette nouvelle alliance symbolise un engagement profond, une relation intime entre Dieu et son peuple, entre le Père et ses enfants. Cette nouvelle alliance, réalisée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, permet à la loi d'être inscrite dans les cœurs et dans les pensées des croyants. Je vous invite vraiment à réfléchir sur la relation personnelle avec Dieu. Est-ce que vos pensées et vos cœurs sont dédiés à Dieu ou par le péché ou par les distractions du monde? Parce qu'on peut être rempli par les distractions du monde, même si ce ne sont pas le péché, ça peut être aussi, ça peut devenir si nous devenons addicts. Vous savez que j'aime bien le tennis. Je suis fan de tennis, je joue régulièrement le tennis, chaque semaine d'ailleurs. Mais je ne suis pas addict au tennis. Il y a des gens qui sont addicts, qui doivent jouer tous les jours. J'ai vu des gens comme ça qui doivent jouer tous les jours. Vous pouvez pratiquer vos hobbies, etc. Mais vraiment, je nous invite à remplir nos pensées, nos cœurs, avec des choses saintes. Est-ce que votre flamme brûle toujours? Est-ce que seulement il n'y a que des braises? Dans ce cas-là, oui, il faut le souffle de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu pour être restauré. S'il y a un besoin de revenir auprès de Dieu, qu'on puisse vraiment demander pardon à Dieu et demander la vraie repentance en changeant notre comportement, comme le fils prodigue qui a complètement changé. Je prie qu'il y ait vraiment une vraie relation entre Dieu et nous à travers les enseignements de ce matin de Jérémie. J'aimerais terminer par une lecture dans Jérémie 23, 4, 5, 6. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Oui, Dieu a suscité des serviteurs, des servantes dans ce monde pour paître aussi les brebis. Mais le plus grand pasteur, le plus grand berger, c'est Dieu, le Fils de Dieu. On voit ça au verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Voilà Jésus-Christ. Voilà le Messie. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ce jour viendra où le règne de Jésus-Christ sera plein et entier. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ce rappel de la nouvelle alliance qui demande à nous tous un engagement sérieux, profond. Je demande vraiment que nous ayons une relation intime avec toi, Seigneur, pour respecter cette nouvelle alliance qui a été conclue par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, il suffit maintenant de croire en Jésus de tout notre cœur. Et une fois que nous avons fait cette étape, tu nous accordes cette flamme dans notre cœur, dans nos pensées. Seigneur, que nous puissions vraiment cultiver davantage cette pensée de Dieu, cette pensée vers Dieu, pour que, voilà, nous soyons façonnés par toi, de jour en jour. Seigneur, j'aimerais vraiment prier pour que les personnes, en ce moment, ce matin, qui ont besoin d'être ravivées par le souffle de l'Esprit de Dieu, soient restaurées complètement. Que vraiment, Seigneur, cette année 2024 soit une année où notre rapport, notre intimité avec toi devient beaucoup plus grande, plus proche. Seigneur, s'il y a des gens qui ont besoin de s'humilier devant toi, comme le Fils aîné, qu'on puisse s'humilier devant toi. Merci encore pour ta présence. Merci aussi pour ton amour qui est inconditionnel, tellement grand. Cette grâce qui nous a été accordée gratuitement, nous ne pouvons que te dire un grand merci. Seigneur, merci vraiment pour tous ces dons que tu nous accordes. Merci de nous donner aussi le vouloir et le faire, qui est possible que si ton esprit est là en nous. En fait, tout est grâce et nous voulons encore te dire un grand merci. Nous te remettons cette année entre tes mains, au nom de Jésus que nous te prions. Amen.